Voilà, bonjour. J'aimerais lire un psaume, le psaume 143. Psaume 40, 143, c'est le dernier des psaumes qu'on appelle pénitentiels. C'est un psaume de David. Psaume de David, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Lorsque je suis né, c'était en décembre 62, 4 heures du matin, il neigeait, je ne m'en rappelle pas, c'est ma mère qui me l'a dit, il neigeait cette nuit-là. Je suis né dans une famille chrétienne, une famille qui aime le Seigneur. Mon papa avait des ascendances juives et il s'était converti, jeune homme. Après la guerre, ma maman était d'origine luthérienne. Elle-même s'était convertie et ensuite ils s'étaient mariés. Lorsque j'étais petit, je me souviens que j'avais des conversations avec les adultes, beaucoup, beaucoup plus qu'avec les enfants de mon âge. J'avais des conversations d'adultes, je parlais avec les adultes, j'aimais ça. Et tout le monde était étonné, en fait. J'aimais beaucoup lire aussi. On n'avait pas la télé à la maison, mais je pouvais lire. Et donc, je lisais des gros bouquins. Je me rappelle, j'avais lu ce livre, La Tunique Rouge. Quelqu'un l'a lu? Non? C'est à l'époque des Romains, hein, c'est dans l'Antiquité. Voilà. Et du fait que je lisais beaucoup, mon vocabulaire était très fourni. Et donc, on me trouvait, on me pensait très capable. Sauf que quand j'ai démarré l'école, CP, CE1, en fait, on s'est très rapidement aperçu eh bien, que je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de retenir ou d'apprendre quoi que ce soit. Et donc, durant ma scolarité, j'ai passé à l'école primaire, j'ai passé 6 ans, puisque j'ai redoublé une année. Et j'ai passé ma scolarité à l'arrière de la salle, n'est-ce pas? À l'époque, on était classé par ordre. Le premier était devant, le dernier était derrière. C'est logique. Ce qui fait que quand vous rentriez dans une classe, vous saviez tout de suite qui étaient les bons élèves et qui étaient les mauvais élèves. Donc j'ai passé 6 ans derrière. Et donc mes compagnons de jeu, eh bien c'était ceux qui étaient à côté de moi, n'est-ce pas? Et on se retrouvait aussi dans la cour de récréation. Et voilà. Et donc mes camarades, c'était ceux qui partageaient le même bulletin scolaire que moi. Et à l'époque, on lisait les remarques des enseignants. Je l'ai encore à la maison. C'était écrit en rouge. C'était écrit à la plume. Mal. Nul. Médiocre. Passable. De temps en temps, il y avait assez bien. C'était rare. Et donc, lorsque je suis arrivé en classe de 6e, dès les premiers jours, j'ai su que ça n'irait pas très loin. Et donc, j'étais sur le point de redoubler également la 6e, mais à l'époque, d'ailleurs aujourd'hui non plus, je crois, on ne peut pas redoubler 2 fois. Et donc, on a dit à mes parents, écoutez, votre enfant n'est pas bon avec sa tête. Il doit être bon avec ses mains. Faites-lui faire quelque chose de manuel. Alors, on m'a envoyé faire de la mécanique agricole. Mes parents ont cherché par tous les moyens à m'aider. Ma maman était infirmière, elle me suivait. Véritablement, elle cherchait les solutions pour que je puisse m'en sortir. Mes frères même, qui eux étaient... Donc j'ai 2 frères aînés qui, eux, étaient brillants et réussissaient parfaitement. Ils essayaient de m'apprendre. Je me rappelle d'un moment absolument extraordinaire dans la cuisine où un d'eux était en train d'essayer de m'apprendre la multiplication. La preuve par 9. Ces choses-là. La division. Et il n'y a rien qui rentrait. Rien. Ils m'ont envoyé dans ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, un centre psychopédagogique, qui était le jeudi, le jour de repos à l'époque, c'était le jeudi. Et donc, j'allais là-bas et j'avais un maître spécialisé qui essayait de m'apprendre, parce que je n'arrivais pas à apprendre dans la semaine. Et le pauvre, il a fini par jeter l'éponge parce qu'il ne comprenait pas que je ne comprenne pas. Mes parents ont fini par m'envoyer chez un pédopsychiatre pour me faire tester parce qu'à un moment, ils se sont dit « c'est pas possible, il doit être débile, il doit être limité, il doit y avoir un problème ». Eh bien non, en fin de compte, non. Lorsque les tests ont été corrigés, eh bien, j'étais plutôt très capable que incapable. Et donc personne ne comprenait rien. Et surtout pas moi. Donc, je suis allé en classe de mécanique agricole, pas loin d'ici, à Aubernais, pour faire un CAP. Et donc je me suis retrouvé là à l'âge de 13 ans, avec une caisse à outils dans la main, en bleu de travail, 2 pièces, bleu foncé, beaucoup trop grand pour moi, parce que ça ne se faisait pas vraiment pour les enfants, n'est-ce pas? C'était pour... Alors le plus petit modèle, et avec les manches retournées, et voilà. Et j'étais là, et franchement, je me demandais ce que je faisais là. Je me rappelle ma détresse, mais j'étais là. Jusque-là, on peut dire que j'aimais le Seigneur. En tout cas, je voulais lui plaire. Je voulais le faire connaître. Et je me rappelle, j'avais des autocollants chrétiens que je collais à des endroits stratégiques, sur mon sac, sur ma trousse. Parce que je voulais que mes camarades puissent le voir, avoir un message de la part du Seigneur, que ça les interpelle. Jésus t'aime. Je témoignais de ma foi autant que je pouvais. Et jusqu'au jour où, en classe de CM2, une camarade de jeu, faisant semblant d'être intéressée par l'Évangile, s'est finalement ouvertement moquée de moi devant tout un groupe qui était là pour observer la scène. Et ça a été pour moi le début d'une longue dégringolade. Je me suis éloigné de ce que je connaissais de Dieu, jusqu'à le renier. Et j'ai cherché à me faire une place dans le monde. Je voulais réussir à tout prix. Et tout ce que j'entreprenais était voué à l'échec. En fait, l'échec était inscrit en moi. J'étais, à moi seul, la définition de l'échec. Et j'avais même pas d'excuse pour expliquer ça. N'est-ce pas? Je ne pouvais pas dire que j'étais issu d'un milieu social défavorisé. Je ne pouvais pas dire que mes parents étaient alcooliques et qu'ils ne s'occupaient pas de moi. Je n'avais aucune excuse. Je ne pouvais pas expliquer ma situation. Mes parents m'aimaient. Ils ont tout fait pour m'aider. Je vivais dans un environnement paisible, dans une maison. Mais je ne me sentais pas aimé par Dieu. Et donc, finalement, je ne me sentais redevable en rien à Dieu. Au début de ma vie adulte, j'étais en difficulté à tous les niveaux. Intellectuel, émotionnel. Et j'ai passé des années à vivre sans Dieu. Dans ma tête, je cherchais tout sauf Dieu. Parfois, il y avait dans mes pensées un tel brouillard que je n'arrivais même plus à réfléchir. Je me rappelle d'avoir essayé de m'être installé à un bureau et pour noter ce qui me passait par la tête. Et ça n'avait ni queue ni tête. Et je plongeais de plus en plus. Et la seule chose qui m'intéressait, c'était réussir ma vie, trouver une façon de m'en sortir. Et j'en étais arrivé à me sentir indigne de vivre. Inutile à moi-même. Inutile à la société. Un poids pour mes parents, pour ma famille. J'étais devenu, comme on l'a lu dans ce psaume, une terre desséchée, au verset 6. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Sans ressources, sans vie. Je m'ouvrais à l'occulte et j'étais la proie d'esprits mauvais dans mes pensées. J'étais tourmenté. Jusqu'au jour où j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Dans Actes 17, on lit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Mettre fin à ces jours, le suicide, c'est ultimement une façon de vouloir mettre fin, mettre un terme à l'appel à se repentir que Dieu adresse à tous les hommes, à toutes les femmes sur la terre entière. Ce n'est pas le désespoir qui pousse l'homme à mettre fin à ses jours. C'est l'orgueil. Lorsque j'ai voulu mourir, c'était parce que je voulais que ma souffrance s'arrête. Je ne me souciais pas de la souffrance que j'allais infliger aux autres. Ce qui comptait, c'était moi. C'était le grand moi. Le suicide est un acte d'orgueil qui, poussé à son comble, nous sépare définitivement de Dieu. Personne n'a demandé à venir au monde, n'est-ce pas? Certains de nos enfants nous ont répété ça souvent. Je n'ai pas demandé à venir, c'est vrai? C'est vrai. Et certains veulent mourir à cause de la violence de leur vie, à cause des circonstances injustes qu'ils ont à subir, à cause des souffrances qui n'en finissent pas. Mais réellement, ce qu'ils veulent, c'est punir Dieu. Parce qu'en choisissant le jour de leur mort, ils disent à Dieu : « Tu ne m'as pas laissé le choix de ma vie, alors je t'impose le choix de ma mort. » On comprend les souffrances, on comprend les injustices, et il y en a dans ce monde, terribles injustices, terribles. Il y a tous les jours dans le monde des hommes et des femmes qui souffrent le martyre. Mais ces choses ne sont pas le fait de Dieu. Ce sont les démons. Ce sont les démons. C'est le péché, mais aussi les démons qui agissent dans la vie des hommes et des femmes et qui les poussent aux extrémités. Le suicide, ce n'est pas seulement de chercher à mourir. C'est aussi chercher à se séparer consciemment de Dieu. Et il y a deux façons d'arriver à cela. La première, c'est de refuser de donner à Dieu la possibilité de nous convaincre, se boucher les oreilles lorsqu'il parle. La deuxième, qui est aussi une conséquence de la première, c'est le rejet pur et simple de Dieu. Judas s'est suicidé. Les catholiques ont instauré une théologie du suicide en disant qu'un suicidé ne peut pas être sauvé, en se basant sur le suicide de Judas. Mais en fait, Judas, il s'était déjà suicidé avant de mourir. N'est-ce pas, son rejet de Dieu était la marque de son suicide. Il n'a fait que confirmer ce qu'il venait déjà de faire en se mélangeant aux pharisiens qui voulaient anéantir Jésus. Il s'est associé à des démons. Et il est mort à cause de cela, à cause de son rejet de Dieu. « C'est l'œuvre de Satan et des démons que de chercher à déconnecter les hommes de la repentance et du salut en Jésus-Christ. C'est leur travail. C'est leur mission. Dans l'Ancien Testament, plusieurs se sont suicidés. Samson, n'est-ce pas? Vous vous rappelez à la fin, quand il a détruit l'immeuble, il a pris les fondations et tout est tombé, il était en dessous. Saül s'est suicidé. Et les démons ont beaucoup de choses à voir dans sa vie, n'est-ce pas? Il était agité par un démon. D'autres encore. Dans le Nouveau Testament, on voit que les démons cherchent à faire mourir les gens. Dans Marc 9, 17, c'est un esprit muet qui incite l'enfant à se jeter dans le feu. Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, Satan l'a incité à se jeter du haut de la montagne. Les démons se cachent parfois derrière les maladies physiques. La femme courbée depuis 18 ans. Vous avez déjà vu des hommes ou des femmes complètement courbés qui marchent dans la rue. La femme courbée depuis 18 ans, c'était l'œuvre des démons. Elle était liée par Satan. Jésus l'a délivrée de ce lien. Ce lien qui l'obligeait à vivre en regardant par terre, en regardant vers le bas, plutôt qu'en haut. Et à force de regarder en bas, on finit par ne plus avoir envie de vivre. Bien-aimés, est-ce que quelque chose ce matin vous force à regarder vers le bas? Quelque chose qui vous interdit de regarder vers le haut? Alors il y a une bonne nouvelle. Jésus va vous délivrer pour que vous puissiez regarder vers le ciel. Si vous lisez ces textes, vous remarquerez qu'il n'y a pas toujours besoin de demander à Dieu la délivrance. C'est quelque chose que Jésus fait naturellement. Cette femme qui était courbée, Jésus l'a délivrée comme ça lorsqu'il l'a vue. Ou cette femme qui suivait l'apôtre Paul, qui avait un esprit de python, un esprit de divination. Au bout d'un moment, Paul a ordonné au démon de sortir, de partir, et elle a été délivrée. La repentance. Dieu demande, Dieu cherche ceux qui se repentent vraiment. Il les appelle, il appelle les hommes à se repentir. La repentance, c'est l'inverse du suicide. Si le suicide, c'est la volonté manifeste de se séparer de Dieu, la repentance, c'est exactement l'inverse. C'est la volonté manifeste de se rapprocher de Dieu. Lorsque je suis parti pour mettre fin à mes jours, je me suis mis au volant de ma voiture et j'ai roulé très très vite. Et lorsque c'était une nuit, il pleuvait beaucoup, très très fort, et j'étais dans une situation, j'arrivais sur à un point où je savais que l'accident était inévitable. Et quelque chose s'est passé, quelque chose s'est produit. qui a fait que la voiture, au lieu de rentrer en collision, en fait, j'ai fermé les yeux à ce moment-là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais que ma voiture a dépassé l'endroit où normalement j'aurais dû avoir une collision. Et je me suis retrouvé de l'autre côté, avec les feux des voitures derrière moi et la route dégagée devant moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que Dieu est intervenu. J'étais choqué par ce qui s'est passé. Et en rentrant, j'ai prié. Dieu venait de préserver ma vie pour que je me détourne de la vie qui était la mienne jusque-là et pour que je puisse regarder à lui à nouveau. Et cette nuit-là, j'ai prié comme l'apôtre Paul a prié. Vous savez, il y a beaucoup de prières qu'on fait que Dieu n'entend pas. Mais un jour, il y a la prière que Dieu entend. Parce que c'est la dernière prière. C'est la prière où je meurs. Je me suis adressé à Dieu comme un ultime recours. Et je lui ai dit la chose suivante. Si vraiment tu es comme on me l'a dit, ce Dieu qui m'aime et qui veut faire de moi son enfant, alors je suis d'accord. Mais je ne sais pas où tu habites. Je n'ai pas d'adresse pour te trouver. Je ne sais pas à quelle porte frapper. Mais toi, si tu es le Dieu qui peut tout, tu dois être en mesure de me trouver pour me rencontrer. La repentance, ça ne se définit pas. Il n'y a pas de définition pour la repentance. Le problème, n'est-ce pas, quand les hommes essayent de définir des notions comme ça de façon précise, alors ils le transforment en loi. Une procédure à respecter. Il n'y a pas de loi de la repentance. La seule loi de repentance, si on veut utiliser le terme, c'est que personne ne peut venir à Dieu sans passer par la croix de Jésus-Christ. C'est la seule loi immuable dans la repentance. La croix de Christ, c'est la seule façon pour l'homme d'être mis en relation vivante avec Dieu. Jésus-Christ crucifié. Il n'y a pas d'autre moyen pour trouver la paix et la joie. Jésus, et je dirais que la paix et la joie, malgré les circonstances, c'est sans doute le signe d'une repentance qui a abouti. En tout cas, c'en est au moins un. Jésus a pris mon péché, a pris ton péché de façon inconditionnelle. Pour que tu puisses vivre justement dans la paix et la joie, indépendamment des circonstances de la vie. La repentance, c'est de croire que ce Christ, ce Messie, est le seul recours, le seul moyen du salut. Et ce soir-là, j'ai prié. L'apôtre Paul a prié sur le chemin de Damas. Quand le Saint-Esprit a demandé à Ananias d'aller voir Paul, il lui a dit « Va car il prie ». Évidemment que Saul de Tarse, l'apôtre Paul, anciennement Saul de Tarse, avait déjà prié dans sa vie, n'est-ce pas ? Il était un religieux qui aimait Dieu et qui pensait le servir. Mais cette prière-là, ce jour-là, c'était la prière qui comptait pour Dieu. Il y a un jour dans la vie où la prière que vous faites, Dieu ne peut pas ne pas l'entendre. Et c'est ça la prière de repentance. L'apôtre Paul a prié. Des millions d'autres personnes depuis ont prié cette prière. Et Dieu est venu. Et Dieu a parlé. La prière de repentance est une prière inconditionnelle. On ne prie pas pour demander quelque chose à Dieu. On prie pour se donner à Dieu comme si on allait mourir après. Vous savez, il n'y a que les malades du péché au stade terminal qui se tournent vers Dieu. Ceux qui savent qu'humainement plus aucun espoir n'est permis. Ceux qui savent qu'aucun des médecins de l'âme, aucun gourou, aucun thérapeute n'est en mesure de donner la paix, la joie et le bonheur de façon durable. La repentance, c'est d'abord un état du cœur, c'est une émotion profonde qui nous pousse à agir. C'était le cas, n'est-ce pas, cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Une perte de sang chronique depuis 12 ans. Elle a cherché pendant des années la solution parmi les médecins. Elle avait dépensé toute sa fortune. Alors, Jésus passe. Il est là au milieu d'une foule, mais vraiment une foule dense. Il est au milieu des gens. Et elle se ferait un chemin pour arriver jusqu'à lui. Et elle le touche par derrière. Et elle a été guérie instantanément. Et Jésus se tourne et qui m'a touché? Il y avait tant de gens. Il était touché par tant de gens. Mais quelqu'un l'avait touché. N'est-ce pas? C'est comme lorsque l'apôtre Paul a prié, Dieu a dit, qui a prié? Et c'est comme quand moi j'ai prié ce jour-là. Dans le ciel, Dieu a dit, qui a prié? Cette femme a touché Dieu avec son cœur, pas avec ses mains, avec son cœur. La véritable repentance annonce l'action de Dieu. Dieu ne peut pas résister lorsqu'un homme se repent vraiment. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Lorsqu'un homme se détourne de lui-même pour se tourner vers Dieu, alors il est réintégré dans l'image de Dieu. Vous savez que nous avons été créés à l'image de Dieu et que cette image a été presque détruite par le péché. Mais l'homme peut à nouveau s'adresser à Dieu, il peut à nouveau entrer en relation avec Dieu, en communion. Les Ninivites, n'est-ce pas, ont pu bénéficier du pardon de Dieu. Parce que lorsque Jonas est venu leur annoncer la destruction, eh bien, ils se sont repentis. David a pu à nouveau entrer en relation avec Dieu parce que il s'est repenti du mal terrible qu'il a fait à Bathsheba en tuant son mari. La repentance sincère impressionne Dieu. Lorsque l'élan du cœur est sincère, qu'il est profond, lorsque le péché est reconnu, lorsqu'il y a une décision personnelle de se détourner de façon radicale de son péché, lorsqu'il y a un engagement à marcher dans la voie de la justice selon Dieu, il y a la repentance. Dieu donne à l'homme qui lui fait confiance, qui a foi en lui, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et ça lui permet de recommencer sa vie. La repentance, c'est un changement de mentalité et évidemment un changement d'acte. Dans Ézéchiel, la personne qui confie sa vie à Dieu reçoit le pardon de ses péchés. Une mentalité nouvelle dont Dieu est la principale source et ressource. Ézéchiel 36, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La repentance, ce n'est pas une émotion passagère qui vient et qui s'en va. C'est un nouveau style de vie qui met en avant la volonté de Dieu, c'est-à-dire aimer ce que Dieu aime, pratiquer ce que Dieu pratique, glorifier son nom. Dans ces conditions, la relation avec Dieu nous transforme à son contact quotidien avec la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes transformés pour que nous devenions comme lui. L'abandon de ce que nous sommes et de nos péchés, ce n'est pas un objectif. C'est une conséquence. C'est une conséquence du nouveau style de vie que l'on vit et de la compréhension de ce qu'est le bien selon Dieu. Une des raisons pour laquelle j'avais voulu mourir, c'était à cause du rejet. J'avais vécu une déconvenue amoureuse. Et je ne supportais pas d'être rejeté. Quand on se sent la personne la plus nulle de la terre, on ne supporte pas d'être rejeté par quelqu'un. Et dans ces conditions, les démons ont beau jeu pour vous attirer vers le bas et vous suggérer d'en finir avec la vie. J'avais prié pour que Dieu vienne me rencontrer. Dieu a répondu à cette prière 4 ans plus tard. Mais j'avais fait aussi une autre prière. J'avais demandé à Dieu de me donner une femme, une épouse, avec qui je pourrais passer ma vie. Et Dieu a répondu très rapidement à cette prière. Et j'ai rencontré Brigitte, qui est là, devant vous. Et pendant plusieurs années, nous avons vécu ensemble. Moi, j'avais complètement oublié l'autre prière. Mais pas Dieu. Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu était à l'œuvre dans nos vies. On n'en avait pas conscience. Mais il a fait pour nous une succession de miracles extraordinaires dont nous pouvons témoigner aujourd'hui encore. Un soir tard, j'étais dans la cuisine. Brigitte était déjà au lit. C'est toujours un peu comme ça aujourd'hui, hein. Moi, je suis debout, elle dort. Puis le matin, c'est l'inverse. Je me suis levé subitement et j'ai tiré un feuillet du calendrier de la bonne semence que mon papa m'avait offert. Mon papa essayait tous les ans de m'offrir un calendrier, une lecture spirituelle ou quelque chose que je repoussais systématiquement, mais pas cette année-là. Cette année-là, je ne l'avais pas repoussé. Et je me suis levé pour tirer le feuillet du calendrier. J'ai lu le texte et je me suis mis à pleurer. Ne me demandez pas ce qui était écrit, je ne me rappelle plus du tout. Mais je me suis mis à pleurer. Et pendant que je pleurais, j'ai entendu cette voix qui m'a traversé en disant « Tu voulais que je vienne pour te rencontrer. Aujourd'hui, je suis là pour toi. » Et je me suis immédiatement rappelé la prière que j'avais faite. Et je suis resté là quelque temps sans réellement comprendre ce qui se passait, si ce n'est que Dieu était là. Et que je ne devais rien dire à Brigitte de ce qui m'était arrivé. Plus tard, en lisant dans les évangiles, j'ai vu que lorsque Jésus faisait des miracles, parfois, il demandait à la personne de ne rien dire. Et je savais, ce jour-là, que je ne devais rien dire à Brigitte de ce qui m'était arrivé. Donc j'ai juste téléphoné à mon papa, mais j'ai rien dit à Brigitte, parce que 3 jours plus tard, pour des circonstances qu'il faudrait que je vous raconte, nous sommes allés dans une église, elle a entendu l'évangile prêché, et elle a donné sa vie au Seigneur. À partir de là, nos vies ont changé. Nos motivations ont changé. Nous étions gérants d'une grande surface de papier peint. Nous étions très bien payés. Notre recherche, c'était d'avoir une belle vie. Une belle maison. Une belle place dans la société. Mais du jour au lendemain, nos motivations ont changé. Et nous avons démissionné pour nous mettre au service du Seigneur. Et dans les premiers mois de notre conversion, le Seigneur a fait le ménage dans nos vies. Nous avons cessé de fumer. Et surtout, le Seigneur a restauré mon cœur, qui était toujours très sensible sur le rejet. Après la conversion, je ne suis pas devenu plus capable intellectuellement. Mon niveau de fin d'études, c'était celui de la classe de 6e, non validé. Ensuite, j'avais réussi à décrocher un CAP comme employé de restaurant. Mais là, au stade où j'en étais, je voulais étudier. Je voulais pouvoir lire la parole, la comprendre, faire une formation biblique, progresser. Mais quand vous avez un niveau 6e, essayez d'entrer dans une école biblique avec un niveau 6e. Personne ne veut de vous. Personne. Et un jour, alors que je lisais dans la Bible, le Seigneur m'a parlé en me disant « Je te rendrai ce que les sauterelles ont dévoré dans ta vie. » Vous lisez ça où ?
C'est un petit prophète, c'est Joël.
Petit.
C'est comme ça.
Petit prophète. Joël 2. C'est parce que tu t'appelles Joël que tu as retenu. Hein. Joël chapitre 2. C'est tout. Tout Joël m'a parlé, mais à ce moment-là, le Seigneur m'a vraiment parlé sur ce passage-là, je vais lire à partir du verset 21. Terre, ne crains pas. La terre, c'était moi. La terre desséchée, c'était moi. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années dévorées par la sauterelle. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Ce que Satan t'a retiré. Ce que tes ennemis ont retiré, je te le rendrai. En quelques années, je suis passé de bac moins 6 à bac plus 5. Ah, il a fallu travailler. C'est pas venu comme ça. Mais enfin, enfin, j'ai pu apprendre, j'ai pu retenir. J'ai pu juste devenir comme n'importe qui, en fait. J'étais comme une terre desséchée. Et Dieu a remplacé les années perdues, les années gâchées. Vous savez, parfois, on se dit, mais j'ai tout raté. J'ai tout gâché par ma bêtise. C'est trop tard. C'est jamais trop tard pour Dieu. Dieu peut vous faire gagner le temps que vous avez perdu. Dieu peut accélérer le mouvement des choses. Et si vous avez perdu des années, eh bien, il peut vous les remplacer complètement. Dieu n'est pas limité pour ces choses. Sachez-le. Je vais terminer sur ce que j'appelle le don de la repentance. La repentance, c'est un acte de foi, n'est-ce pas ? La plupart des cas. Mais il y a des situations où la repentance est difficile, voire impossible. Et à ce moment-là, il faut que Dieu intervienne pour accorder le pouvoir de la repentance. Et il donne la repentance. Pour différentes raisons. Des hommes et des femmes qui ont du mal à se repentir, c'est souvent parce qu'il y a la présence de liens démoniaques. Mais Dieu peut donner la repentance à de telles personnes. Si vous lisez dans 2 Timothée 2, 25, je vais commencer au 24. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. N'est-ce pas? Il y a des situations, parce que je continue, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il y a des situations où les hommes sont liés par le diable, sont liés par les démons. Et Dieu peut accorder le don de la repentance. Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance. Il y a aussi d'autres références que je ne lirai pas, Actes 5, 31 et 11, 18. Il y a des situations où il faut prier pour que la personne puisse recevoir la capacité de se repentir, pour qu'elle soit déliée de ce qui l'empêche de se repentir. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple : ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Regardez la délivrance. Dieu vient pour délivrer son peuple. Vous et moi, nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. Et il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu restaure les cœurs brisés. Il protège ses enfants des attaques du malin. Et les Égyptiens représentent les démons, n'est-ce pas ? Pharaon représente la puissance de Satan. Les Égyptiens représentent les démons. La promesse, c'est que lorsque vient la délivrance, les démons partent définitivement. Ésaïe 45, verset 2. « Je marcherai devant toi. » J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Bien-aimés, les prisons dans lesquelles les démons placent les hommes et les femmes sont ouvertes par la puissance de Dieu. Il n'y a pas de prison que Dieu ne peut ouvrir pour libérer son peuple. Et si le Seigneur m'a donné une image de délivrance, c'est celle-ci. J'ouvrirai ta prison. Je briserai les verrous de fer. Je romprai les portes d'airain. Vous connaissez la force de l'airain. L'airain, c'est quelque chose d'extrêmement solide. Eh bien, il n'y a rien qui puisse empêcher Dieu de briser des portes d'airain et de rompre des verrous de fer. Et je vous laisserai avec ce verset, Luc 4, 18. C'est le Seigneur Jésus qui parle, mais c'est aussi une prophétie d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà ce que le Seigneur Jésus peut faire encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux finir ?